Biographie. Xie Lingyun, 385-433, est un des grands génies de la poésie chinoise. Il appartenait à une grande famille de la noblesse des Qin orientaux qui régnèrent de 317 à 420. Il possédait un domaine à Chenning, dans le Zhejiang. Il reçut une solide formation taoïste dans un koan, sorte d'établissement mi-scolaire, mi-religieux. Entre 398 et 402, le Zhejiang fut ravagé par une jacquerie taoïste qui fut violemment réprimée par Liao Hu, un aventurier d'origine plébéienne qui finira par usurper le trône des Qin pour fonder la dynastie des Song qui régna de 420 à 478. Le malheur de Xie Lingyun et de sa famille fut d'avoir prêté allégeance aux Qin. Son oncle fut contraint de se suicider et le poète échappa de justesse au pire. Par la suite, il se lia d'une grande amitié avec un des fils de l'empereur, Liu Yijun, prince de Luling, un jeune homme très épris de littérature. Mais là encore, le sort lui fut contraire, puisque 2 ans après la mort de l'empereur, le prince fut assassiné dans un complot ourdi par les régents. C'est de son exil à Yongtia que Xie Lingyun écrivit le poème Montée à la tour du lac, entre la fin de l'hiver et le début du printemps 423. L'exil avait aussi ruiné ses ambitions politiques. Dès l'automne 423, sous prétexte de maladie, il se démet de sa charge et regagne le domaine familial de Chenning. Là, il compose son chef-d'œuvre, le Shanju Fu, un poème de 4000 caractères où il célèbre la nature sous toutes ses formes. Mais dès avril 426, l'empereur le rappelle à la capitale pour diriger la bibliothèque impériale. Il refuse par 2 fois, mais doit finalement accepter. En mai 428, il peut enfin rentrer. Il reprend les grands travaux d'aménagement de son domaine, mettant personnellement la main à tous les travaux manuels. Mais une nouvelle fois, le sort semble s'acharner contre lui. Suite à des travaux de défrichement et au projet d'assèchement d'un lac pour le mettre en culture, il se heurte violemment au préfet de la région, et c'est de nouveau l'exil. En 431, il est à Linchuan, dans le Jiangxi. Ses prises de position subitistes lui valent de très nombreux ennemis. Je m'explique. Ce penseur de génie était aussi à l'aise avec le bouddhisme qu'avec le confucianisme et le taoïsme. Sa nature et sa formation le portèrent très tôt vers le taoïsme, mais la jacquerie qui avait ravagé le Zhejiang entre 398 et 402 rendait les taoïstes suspects. Il se tourna alors naturellement vers le bouddhisme et la pensée de Nagarjuna. Il se passionna pour le Sutra du diamant, Vajracchedika Prajnaparamita Sutra, au point d'en écrire un commentaire. Dans son grand ouvrage, le Tianzonglun, il fusionne les différentes doctrines et se déclare subitiste comme l'auteur du Sutra du diamant. Il s'oppose ainsi ouvertement aux gradualistes qui prônent un éveil progressif. Avec un éveil progressif, tout le monde peut devenir Bouddha, alors que le véritable éveil est subit et foudroyant. Si l'avenir lui donnera raison, Shankara et Madhchandra, Ramanuja, ou plus près de nous Ramakrishna, Aurobindo, ou encore Ramana Maharishi, tous les petits potentats de l'époque qui se croyaient sur le chemin de l'éveil virent en lui un ennemi trop dangereux. et c'est bien connu. Si vous voulez tuer votre chien, accusez-le d'avoir la rage. » Une cabale fut donc montée contre le poète, et il finira décapité en place publique sur le marché de Canton en 483, à l'âge de 48 ans.